Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
De plus en plus, les entreprises et certaines ONG publient des offres d'emploi pour les chargés des conceptions, suivi et évaluation des projets, directeurs des projets, assistants aux projets. Alors cela démontre à suffisance l'importance de cette matière. Alors une idée ne peut devenir un projet que si elle respecte le cycle des conceptions des projets, d'après les experts. Alors comment élaborer un projet de développement, un projet bancable, comme le dit certains, un projet qui peut attirer des financements des bailleurs des fonds. Monsieur Jean-Paul Kalala, consultant en élaboration et gestion des projets, notre invité. Monsieur Jean-Paul, d'abord, c'est quoi un projet?
Voilà, merci beaucoup, monsieur Jody. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. D'une manière brève, un projet, c'est un ensemble d'actions entreprises dans le but de répondre à un besoin très bien défini dans le délai du temps et d'une enveloppe budgétaire très bien allouée. Voilà. En somme, un projet, c'est quoi?
Un ensemble d'actions.
Un ensemble d'actions.
Bien, alors dites-nous comment peut-on élaborer un projet de développement?
Merci beaucoup. Lorsque nous disons projet de développement, parce qu'en management, il y a trois types de projets qu'il faut distinguer. Nous avons le projet de développement, autrement dit, projet communautaire, projet social, un projet qui est monté pour satisfaire, si pas répondre, aux besoins de la communauté, non aux besoins individuels. Le deuxième type de projet, c'est le projet lié à la recherche de la valeur sociale. Autrement dit, projet privé, individuel, un projet qui est monté par l'individu juste pour comment vivre et être considéré dans la société. Ce sont des petits projets privés que nous appelons, bon, par exemple, un projet du mariage, un projet de voyage. Ce sont des projets aussi, mais ce sont des projets liés à l'existence de la personne privée.
D'accord.
Et un troisième type de projet, c'est le type qui est connu presque par tout le monde, et c'est un projet lié ou un type lié dans le monde politique, ce que nous appelons projet de société. C'est aussi un projet. Mais ce qui nous intéresse ici dans le cadre de notre mission, c'est le projet dit de développement. Or, pour concevoir un projet dit de développement, au préalable, la personne qui conçoit doit se rassurer que ce n'est pas elle, la personne qui doit porter le projet. Le projet doit être porté par une structure reconnue par l'État congolais, autorisée à fonctionner. Sinon, on ne finance pas un projet de développement à un individu. Le projet de développement est financé lorsque il est porté par une structure. La structure ici, c'est soit
une ONG,
voilà, ASBEL.
ASBEL.
Au départ, c'est d'abord ça. Rassurez-vous que vous travaillez au nom de l'ASBEL.
Une association.
Une association, voilà. En dehors de cela, c'est impossible même. Impossible de prétendre trouver le financement. Alors, lorsque l'ASBEL a été créée, si pas l'ONG a été créée, elle est autorisée à fonctionner, la conception d'un projet, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne agissant au sein de l'association. C'est un travail collégial. Enfin, c'est vrai, il y a des normes que nous allons voir, peut-être au cours de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer pour...
Il semble que tout projet, un projet doit respecter un cycle.
Voilà.
Il y a un cycle, alors pouvez-vous nous en dire davantage?
Voilà. Les cycles, bon là, on est déjà dans la gestion proprement dite d'un projet. Il y a une petite controverse dans la doctrine. Il y a certains qui disent que le projet se gère en 6 cycles, c'est-à-dire en 6 phases, 6 étapes différentes. Il y a d'autres qui disent que le projet communautaire ou développement doit se gérer en principe par 4 phases. Alors, la première phase, c'est la phase d'identification du besoin. Nous l'avions dit, ensemble d'actions entreprises pour répondre à un besoin défini. Voilà le projet. Donc, si le besoin n'existe pas, il n'y a pas de conception. On conçoit l'idée pour répondre. La gestion en soi, c'est la réponse aux besoins que nous avions identifiés. Et le besoin identifié dans le projet de développement, ça c'est assez important.
Et on dit souvent qu'il faut, le projet doit être, on dit souvent qu'il faut, il y a un arbre à problème. Donc on doit déterminer le problème qu'on veut résoudre.
C'est ça, monsieur Judy. Parce que si vous ne savez pas identifier le problème, vous allez résoudre quoi? Parce que la réussite dans la gestion du projet dépend de la conception. Et lorsque la conception n'a pas été bien faite, vous allez mal gérer. Et quand vous gérez mal, vous allez justifier l'argent d'autrui, parce que pour la plupart, les projets de développement, l'argent, ce n'est pas vous qui concevez, qui supportez. Soit une partie vous supportez et une autre partie est supportée par les bailleurs de fonds. Alors, lorsque la conception n'a pas été bien faite, on n'a pas bien identifié le problème. Conséquence, quand vous gérez, vous ne répondez pas au problème.
Et alors, après, comment bien identifier?
Comment bien identifier le problème?
C'est ça.
C'est vrai, la conception d'un projet ne peut pas se faire dans un bureau climatisé comme on est ici. Pour bien identifier le problème, il faut faire le monitoring, c'est-à-dire la descente sur le terrain, l'enquête, dialoguer avec le groupe cible que nous appelons bénéficiaire. Parce que le problème n'est pas le problème de ceux qui conçoivent. Le problème, c'est le problème de ceux qui, pour le projet est conçu. Le projet est conçu pour un groupe bien déterminé que nous appelons bénéficiaire. Ce sont eux qui nous diront, voilà ici chez nous, nous avons problème 2. Et nous partons de leur proposition, leur desiderata pour élaborer le projet.
Ok, ça c'est la première étape.
Ça c'est la première étape.
Ok.
La première phase, l'identification du besoin.
Ça peut être un problème d'eau dans une communauté, un problème d'électricité.
Électricité,
ouais, des routes.
Voilà. Et la deuxième phase dans la gestion du projet, c'est la phase de la réponse apportée au problème. On a identifié le problème, il faut maintenant apporter la solution à ce problème. Le travail de l'analyse du besoin ou du problème, ça s'est fait sur le terrain avec les bénéficiaires. Et là, on consulte même l'autorité locale qui doit s'impliquer dans cette démarche. La deuxième étape, la deuxième phase de la gestion d'un projet, c'est la réponse, l'analyse. On analyse le besoin identifié sur le terrain. Et ici, j'insiste, on ne peut pas rester dans le bureau, on commence à appeler les gens qui sont sur le terrain, quels sont les problèmes. Vous allez mal identifier, il faut descendre sur le terrain. Lorsque vous rentrez
parce que certains peuvent vous dire, nous, on a problème d'électricité, les autres, non, c'est de l'eau.
Voilà.
On a problème d'eau, les autres, non, nous, c'est plutôt tel ou tel autre problème. Maintenant, parmi tous ces problèmes, comment arriver à identifier
La méthodologie la plus efficace, c'est regrouper les gens par catégorie. Lorsque vous êtes sur le terrain, vous les regroupez par catégorie. Les jeunes filles, les jeunes garçons, les papas, les mamans. Comme ça, vous entendez chaque catégorie par rapport à ces problèmes. Les papas, ce qui est sûr, de par notre expérience, les problèmes que les papas poseront seront différents de ceux que les mamans poseront, ainsi de suite. Maintenant, quand vous terminez, vous allez maintenant faire cet arbre à parable. Quel est le problème ou le besoin qui semble être beaucoup plus urgent? Lorsqu'il est résolu, il peut répondre, si pas satisfaire la population, à plus de 70%. C'est par celui-là que vous allez commencer la gestion. Sinon, vous n'allez pas imposer, vous, votre gestion à la base, population cible, bénéficiaire. Vous allez gérer selon leurs propositions. Dans le cas contraire, le projet sera rejeté par la population et il n'aura pas de soutien.
Mais généralement, quand les bailleurs de fonds viennent, ils viennent avec des projets ou soit des orientations bien définies.
Voilà.
Nous allons financer seulement dans tel ou tel autre secteur.
Voilà, souvent, c'est pour le moment, c'est ça la pratique de la part de bailleurs de fonds. Quand ils viennent, ils ont des secteurs bien déterminés où l'argent est orienté. Il y a deux possibilités. Ils vous donnent seulement le secteur d'orientation des fonds et ils vous laissent la liberté d'aller maintenant dialoguer avec la population pour voir dans ces secteurs quels sont les problèmes. Deuxième possibilité, on oriente déjà dans les secteurs et eux-mêmes ont déjà élaboré le projet. Ils cherchent seulement une agence pour exécuter. Là, vous n'avez plus la difficulté de descendre parce que tout est déjà élaboré. Vous signez seulement les sous-accords, le protocole pour l'exécution du projet.
D'accord. La première étape, vous avez dit, c'est le monitoring des problèmes. Deuxième étape, la réponse au problème. Lorsqu'on a identifié le problème, maintenant, comment le rédiger, comment le mettre en forme pour qu'il soit réellement un projet,
ou
qu'il devienne réellement un projet.
Merci beaucoup. La conception, si pas l'élaboration d'un projet, c'est un travail plus ou moins technique, au point qu'on ne saura pas donner les phrases d'élaboration à ce niveau, mais néanmoins, quand vous arrivez au niveau de l'analyse ou de la réponse apportée au problème, c'est là que vous déterminez tout ce qui doit être fait. Enfin, pour que ce projet se gère et que la réponse soit efficace, vous déterminez le budget à ce niveau maintenant de l'analyse du problème. Le projet, quand il sera exécuté, il doit créer combien de postes d'emploi? Parce que le projet lui-même crée ses postes d'emploi. Le projet aura besoin d'un coordonnateur, autant de chauffeurs, autant des hommes de terrain. C'est au niveau de cette réponse-là, l'analyse. Et quand vous réussissez à déterminer la durée même du projet, parce que peut-être un élément assez rapidement à ce niveau.
Oui.
La gestion en mode projet diffère trop de la gestion en mode processus. Quand on gère en mode projet, on sait que tout projet, entre autres caractéristiques, a un début, a une fin. Alors quand on gère en mode processus, il n'y a pas de début. Bon, soit le début existe, mais la fin n'existe jamais. Ce sont des caractéristiques plus ou moins complexes.
Mmh.
Et la gestion d'un projet a toujours été complexe par rapport à la gestion en mode processus.
D'accord. Donc, nous avons un premier auditeur en ligne. Drop nous appelle des Guéména dans la province de l'Équateur. Vous voulez également participer à cette émission. N'attendez pas les dernières minutes. Appelez déjà au 081-890-63-94.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Comment élaborer un projet de développement? Drop, vous êtes à Guéména, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité et à tous les auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute.
Oui, j'ai des petites préoccupations.
Mmh.
Nous remarquons aujourd'hui, quand on élabore les projets, il y a des projets qui sont élaborés par les sommets qui sont venus vraiment comme ça pour s'imposer à la base, parce que la base n'a pas de source de financement. Et maintenant, pour élaborer un projet qui doit cadrer aux besoins de la population, si on pouvait passer, par exemple, à trouver les cas où l'invité a dit qu'il faut poser des questions, est-ce qu'on va le faire par enquête, ou soit on va réunir la population pour leur poser des questions? Là, c'est la première préoccupation que j'avais.
D'accord, merci beaucoup, monsieur
Kala. D'accord,
allez-y, avec la deuxième.
Oui, la seconde est la suivante. Si on parvenait à mobiliser, à élaborer un projet selon les besoins de la population, comment mobiliser maintenant des ressources et où en trouver?
Bien, merci, monsieur Jean-Paul.
Ça va, merci beaucoup de la question, monsieur l'auditeur. C'est quoi, qu'est-ce que nous voulons dire? C'est vrai, un projet ne peut être géré d'une manière efficace et produit le résultat escompté que quand il a été élaboré par le concours de la base, la population cible bénéficiaire. Parce que le problème à gérer n'est pas le problème du bailleur de fonds. Non, même s'il a de l'argent. Mais ce sont les gens qui sont sur le terrain qui souffrent, qui connaissent bien identifier leurs problèmes,
mmh.
et c'est mieux de les consulter avant de venir s'imposer à eux. Et la théorie du management montre que il faut à tout prix, au préalable, consulter la base. Après l'avoir consultée, elle détermine elle-même de quoi elle souffre. C'est là qu'on peut élaborer et consulter plutôt, aller déposer le projet élaboré auprès du bailleur de fonds. Comment, si on a élaboré sur base de problèmes émis par la base, comment trouver le financement? Les financements, on les trouve, c'est vrai, c'est un processus plus ou moins complexe aussi. Ce n'est pas parce que vous aviez bien élaboré le projet que vous allez trouver directement celui qui doit le financer. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Un, ça dépend de l'environnement. Il y a des bailleurs qui ont de l'argent et qui peuvent financer le domaine de l'éducation, par exemple, mais par rapport au milieu qui est votre, eux ne financent pas le milieu. Ils financent peut-être la partie est du pays, non la partie ouest. Vous aviez élaboré votre projet pour la partie ouest. D'office, vous êtes hors cadre, vous n'aurez pas de financement.
Mmh.
Donc, il faut réunir toutes ces conditions, savoir quelles sont les exigences. Au-delà aussi du milieu, il y a le coût, le budget global du projet. Il y a des secteurs qui ne financent pas au-delà de 5 000 $. C'est un bon projet qui cadre avec le domaine d'intervention du bailleur par rapport au milieu, tout ça, base bien consultée, mais le projet est de 200 000. Lui dit, moi, ma limite à moi, c'est 100 000. Tout projet qui va au-delà de 100 000, je ne finance pas. Donc, avant d'élaborer et prétendre déposer votre projet auprès de votre bailleur, vous devez savoir quelles sont les conditions exigées au préalable par le bailleur avant de le soumettre.
Bien, Clovis nous appelle de Kamina, dans la province du Katanga. Bonjour Clovis.
Bonjour la radio Kapi, bonjour Jolie Daniel Kachan.
Merci, on vous écoute Clovis.
Bon, j'aimerais poser la question à l'invité. Et j'ai déjà vécu une entreprise privée, du projet privé de développement. Alors, ce projet-là, il y avait une conséquence à propos du responsable n'avait pas bien géré ce projet-là, alors il avait connu une difficulté. est-ce qu'il y a moyen de j'aimerais poser à l'invité qu'il me donne aussi les stratégies comment se gérer ces projets-là.
Bon, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'élaboration d'un projet. Merci d'avoir appelé Clovis. Monsieur Jean-Paul, souvent on voit projet, on écrit tel projet, contexte, justification, tout ça, bénéficiaire. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont là les étapes?
Bon, voilà, pour l'élaboration, c'est vrai, il y a quelques six grandes lignes d'une manière directe. Quand vous commencez, le projet se commence par le contexte et la justification. Le contexte, le
c'est quoi le contexte, c'est quoi la justification?
Voilà, on donne les raisons qui justifient que l'on élabore le projet, dans le contexte, pourquoi on élabore en quelques 3-4 lignes, pourquoi élaborer ce projet. C'est parce qu'on a trouvé que la population est en souffrance et la réponse appropriée, c'est passer par l'addition en mode projet pour résoudre le besoin de la population. Mais l'étape la plus essentielle et qui est trop lue par tous les bailleurs, c'est l'étape justification des projets. Au niveau du contexte, on peut ne pas trop bavarder, mais au niveau de la justification, il y a des éléments qui doivent à tout prix figurer. Premier élément dans la justification, vous devez déterminer pourquoi c'est nécessaire de gérer le projet. Et c'est là que je dis, pour élaborer un projet, il faut, en tout cas, il faut avoir fait de bonnes études, sinon ça sera compliqué. Pourquoi c'est nécessaire de gérer ce projet? Là, vous montrez quels sont les problèmes et quelles sont les réponses que vous apportez à ces problèmes. Deuxième élément, vous devez déterminer avec précision quel est l'intérêt. La majorité des gens qui élaborent le projet échouent et voient leur projet ne pas être financé parce qu'ils ne tiennent pas en compte cet élément-là. Vous devez dégager avec précision l'intérêt de votre bailleur de fonds. Qu'est-ce qu'il gagne dans le projet? Parce que souvent, nous disons, c'est vrai, quand le bailleur de fonds donne l'argent, lui n'attend pas en contrepartie un intérêt financier. Non. Mais lorsque vous dégagez même en une phrase, deux phrases, l'intérêt que le bailleur a, à chaque fois qu'il finance, ils ont de l'intérêt, même si leur intérêt n'est pas matériel. Déterminer l'intérêt qu'ils ont. Aussi, il faut dégager dans la justification les raisons, si pas les causes principales qui ont conduit à l'existence du problème. Le problème existe, il a été identifié. Bon, quelles sont les raisons? L'aspect environnemental doit être pris en compte. Dans le cas contraire, vous risquez de gérer, d'attaquer non la cause, mais vous attaquez les effets du problème, vous ne les résolvez pas de cette manière-là. Voilà la justification.
Voilà. Donc, nous avons la première étape, c'est la grande ligne, c'est le contexte, c'est le pourquoi. Dans la justification, vous dites pourquoi c'est nécessaire de gérer ce projet.
Voilà.
Vous dégagez l'intérêt du bailleur, les causes du problème. Et l'étape suivante.
Bon, après, il y a maintenant quels sont les objectifs? Les objectifs de votre élaboration, de votre conception. Chaque conception doit avoir un objectif bien défini. Et quand nous parlons des objectifs, nous les scindons en deux. Un objectif global, pour la plupart de fois, une thématique qui englobe la vision générale de la conception. Et après, en deuxième lieu, nous avons les objectifs spécifiques. Deux, trois petits objectifs spécifiques qui montrent le pourquoi de l'intervention.
D'accord. Et après cette étape?
Après cette étape, c'est l'étape des bénéficiaires. Vous devez déterminer les bénéficiaires de votre élaboration, de votre conception. Qui sont bénéficiaires? Les bénéficiaires, souvent en deux grandes catégories, les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects. Mais le projet est toujours élaboré pour les bénéficiaires directs. Il faut, à ce niveau, déterminer avec précision l'effectif de ces bénéficiaires. Voilà. Et après, l'étape qui suit, après les bénéficiaires, vous devez dégager les activités. Quelles sont les activités qui seront menées? Et quand nous parlons des activités qui seront menées ici, autrement ce sont maintenant les actions, parce qu'on a défini un projet comme ensemble d'actions. Ces activités sont des actions. C'est un moyen, au fait, par lequel on doit passer pour atteindre le résultat. Vous déterminez les activités, et souvent nous disons, quand vous présentez les activités, ces activités doivent être mesurables et quantifiables pour permettre à celui qui viendra faire l'évaluation d'avoir des éléments sûrs sur base desquels il doit évoluer pour savoir si ce qui a été prévu dans le document d'élaboration, c'est ce qui a été réalisé. Après les activités, ce sont maintenant les résultats.
Est-ce qu'on peut dire, par exemple, on va construire une bonne fontaine dans un village et qui va permettre à autant de personnes d'avoir de l'eau? Je sais pas.
Là, autant de personnes, là, il faut maintenant déterminer.
Le pourcentage.
Bon, pourcentage, pas en termes, pour les bénéficiaires, on n'y va pas en termes de pourcentage. On doit seulement peut-être, nous allons construire une bonne fontaine pour servir 5000 personnes. Sans distinction de sexe, âge et consort. 5000 personnes.
5000 personnes.
Mais maintenant, par rapport à la fourniture d'eau, combien de mètres cubes d'eau seront servis par jour? Voilà déjà l'aspect mesurable par rapport à cela.
Mmh.
Voilà.
Pichu nous appelle de Kisangani. Pichu Chimanga, bonjour.
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs. Vraiment, j'ai deux petites questions à poser à notre expert du jour.
Oui.
La première est ceci. Dans l'élaboration du projet, la ressource interne doit être de combien de pourcents? Donc, la personne qui est bénéficiaire, parce que l'homme GD qui est bénéficiaire du projet-là, doit disposer d'abord combien de pourcents comme ressource interne? Et deuxième question, en cas de perte majeure ou du non-respect du projet par une guerre, les phénomènes naturels comme la pluie, volcan, et qui peut être responsable? Merci beaucoup.
Bien, monsieur Jean-Paul.
Voilà, merci, c'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai compris la première préoccupation, ressources internes, c'est lié au budget, mais il est dit ceci, quand vous élaborez votre projet, vous déterminez le coût global du projet. Le coût global, pour la majorité de fois, la méthodologie que nous donnons ici, le bailleur de fonds ne donne pas la totalité de l'enveloppe exigée par la gestion du projet. Il donne 90%. La ressource interne, c'est-à-dire l'association, la structure qui doit gérer, doit mobiliser 10%. Alors,
c'est ce que fait le Fonds social de la République,
voilà,
par exemple.
Voilà.
Dans une communauté, il y a un projet, le Fonds social arrive, mais on vous demande aussi de contribuer.
De contribuer, pour montrer que vous engagez à accompagner le projet est votre et vous vous engagez à l'accompagner. 10% du montant global de votre projet, pour l'heure, souvent, les bailleurs exigent que ce montant soit, pas en nature, mais en argent. À un certain moment, c'était soit en nature ou en argent, mais actuellement, vous devez montrer comment votre compte est alimenté et dans lequel il y a des 10%. La deuxième question, en cas de difficultés, catastrophes naturelles,
les imprévus
et consorts. D'ailleurs, pour cet auditeur, nous précisons que dans la partie cadre et logique, nous terminons les hypothèses, c'est-à-dire les conditions qui peuvent soit faciliter la réussite de la gestion, soit faire en sorte que le projet ne réussisse pas. Mais lorsque cela arrive, volcan et consorts, quand vous signez un accord avec le qui a donné de l'argent, c'est déjà un contrat. Et la loi dit, en cas de force majeure, les obligations des uns et des autres tombent. Bon, vous aviez commencé à gérer. À un certain moment de la gestion, il y a le volcan qui surgit, qui fait que l'argent qui était gardé dans les caisses et consorts, tout soit consumé. Qui doit être responsable? Personne. Le projet sera seulement à ce niveau-là. Ni vous qui gérez, ni les bailleurs de fonds, ni personne, il n'y aura personne qui sera dit non. Voilà, parce qu'il y a volcan, vous avez déjà eu la globalité de l'argent, vous devez payer. Parce que cette perte n'est pas due par la volonté de celui qui gère. Voilà. Sauf s'il est prouvé qu'il y a eu mégestion de la part de celui qui gérait, là il sera responsable. Mais pour des cas de phénomènes naturels qui dépassent la volonté de celui qui gérait, il n'a pas de responsabilité.
Comment élaborer un projet de développement? Monsieur Jean-Paul Kalala, consultant en élaboration et gestion des projets, notre invité pour participer, appelez au 081 890 6394.
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Comment élaborer un projet de développement communautaire? Monsieur Jean-Paul Kalala, consultant en élaboration et gestion des projets, notre invité Giscard, vous êtes à Guémena, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Guy, et à tous les auditeurs de la radio Capi, également notre invité.
On vous écoute, Giscard.
Oui, dans la deuxième étape de développement, normalement, les projets de développement visent un changement des mentalités qui doit favoriser les projets sociaux, économiques et culturels de la collectivité. C'est le passage d'une vie traditionnelle à la vie moderne, c'est-à-dire quitter les pires pour les meilleurs. Et ma question est celle-ci. Ma question de savoir, je voulais connaître la différence entre self-help et voluntary leadership. Merci beaucoup.
Un instant, reprenez, de quoi s'agit-il? Parce que c'est en anglais et puis peut-être que nous on ne maîtrise pas. Allez-y, allez-y jusqu'à.
Voluntary leadership. Self-help et voluntary leadership.
Voluntary leadership, qu'est-ce que c'est là? Ça a un trait, c'est en rapport avec les projets, la conception des projets?
Oui, c'est en rapport avec ça.
Parce que j'ai l'impression que vous parlez du leadership là. Il s'agit du leadership, Monsieur Giscard. Hein? Bien, je trouve, si vous avez des questions vraiment en rapport avec le thème du jour, n'hésitez pas. Merci d'avoir appelé. Alors, Monsieur Jean-Paul Kalala, nous poursuivons. On était à l'étape des activités à mener. Vous avez dit que les activités doivent être mesurables et quantifiables.
Oui.
Et après cette étape...
Quels sont les résultats?
Les résultats.
Voilà, parce que vous menez les actions. Chaque action doit aboutir à un résultat escompté. Ça, c'est
On peut dire par exemple que d'ici 2 ans, donc on doit, il y aura plus de problèmes d'eau dans ce village.
Voilà, pour le projet de construction d'une borne fontaine.
Oui.
Pouvons-nous déterminer la première activité que nous allons faire, c'est l'identification du site. Ça, c'est l'activité. On doit l'identifier parce qu'on ne doit pas mettre la borne dans la rue. Il faut avoir un site bien identifié. Deuxième étape, c'est peut-être le forage. On doit forer, on détermine même la profondeur de ce forage. Peut-être on doit descendre à 30 mètres, 40 mètres. Et quand nous disons nous allons forer jusqu'à 40 mètres, c'est déjà un aspect mesurable. Celui qui viendra pour faire l'évaluation saura que non, on est descendu jusqu'à 40 mètres. Et l'argent qui sera financé pour cette activité, c'est pour 40 mètres. Mais si maintenant vous qui exécutez l'activité, vous vous limitez à 10 mètres, même si à ce niveau-là il y a l'eau, peut-être cette eau-là de 10 mètres n'est pas une eau propre à la consommation. Vous vous arrêtez à ce niveau, vous donnez l'eau qui est impropre à la consommation. Vous allez justifier l'argent pour les 20 autres mètres qui n'ont pas été atteints. Alors les résultats doivent être le reflet de toutes les activités qui ont été menées. Voilà.
Bien, et après, là, c'est, il faut passer à l'étape du budget.
Oui, après,
c'est la dernière étape.
Si, après les activités, vous déterminez le budget de manière assez détaillée et tout ce qui est recommandé par rapport à ce budget pour les projets de développement, le budget pour la partie ressources humaines qui doit être mobilisée afin de gérer ne dépassez pas 20% du coût global du projet. Parce que le projet est financé pas pour payer les gens qui l'exécutent, c'est pour répondre aux besoins de la communauté. Alors si déjà vous allez réserver une enveloppe assez consistante rien que pour la paye du personnel, c'est comme si le projet était conçu pour enrichir ceux qui l'ont conçu par le truchement de la paye, qui est de résoudre le problème.
Le problème.
Et donc, il y a beaucoup de gens qui... C'est déjà un faux projet dans ce sens.
C'est déjà un faux projet.
C'est déjà un mauvais projet.
Il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis,
derrière. Qui faisaient 60% du coût global rien que pour la paix et 40% pour l'exécution du projet, là, ça ne marche pas. Pas plus de 20%. Alors, si vraiment vous êtes trop serré, il n'y a pas de possibilité, on peut aller jusqu'à 25%, mais au-delà, déjà le projet tombe. S'il est dans les mains de quelqu'un qui est assez rigoureux comme nous autres, il ne passera jamais.
Il ne passera jamais. Voilà, mais il semble qu'il y a des gens, certaines personnes qui ont des ONG mal-être, qui arrivent à convaincre les bailleurs. Il va quelque part, les enfants dans la rue, tout ça, on prend des photos et on envoie. Il a l'impression que c'est vraiment un problème. Et après, on envoie l'argent. Bon, les gens s'étapent des maisons, s'achètent des véhicules et puis il n'y a rien.
Là, c'est vraiment un comportement malhonnête et à déplorer. Normalement, quand on conçoit un projet tel que nous l'avions dit, un projet de développement surtout, on ne le conçoit pas pour soi-même. On conçoit le projet pour répondre à un besoin de la communauté qui a été bien identifié. Et c'est vrai, je suis conscient qu'à un certain moment, les bailleurs de fonds se faisaient tromper par les gens qui ont des ONG de mallette. On vient, on dépose un projet bien élaboré, on fait voir que le problème existe réellement, alors qu'en réalité, ça n'existe pas. Et quand on finance, même les gens qui, après le financement, disparaissaient du milieu. Et ils prennent l'argent et ils partent directement. Mais de plus en plus, les bailleurs de fonds, découvrant ces mécanismes de fraude, ils sont en train de se faire entourer de stratégies de sorte qu'il faut à tout prix entourer plutôt à protéger l'argent qu'ils sont en train de donner. Le camp du Fonds social de la République, par exemple. Pour le moment, si le Fonds social libère de l'argent afin de financer un projet, il vous donne aussi un agent directement qui doit être parmi les gens qui doivent gérer le financement. Donc ce n'est pas, vous n'êtes pas libre vous-même dans la gestion. Il y a un agent interne pour assurer le suivi et l'évaluation dès la première phase jusqu'à la dernière phase.
Parce que si on ne fait pas ça, l'argent
c'est
va
fini.
Disparaître.
Avec le Congolais, c'est fini. Alors, après le budget, l'étape qui suit, qui est aussi importante, c'est le chronogramme. Il faut déterminer la durée de chaque activité et les lieux où l'activité sera menée.
Oui.
Voilà.
Le chronogramme des activités.
Le chronogramme des activités. Le projet commence quand? Il s'arrête quand? Si c'est dans 5 mois, quel est... le temps tel qu'un parti...
Mais certains disent que la durée d'un projet, c'est généralement une année.
Non. C'est archi faux.
C'est archi faux.
C'est archi faux. Parce que la durée d'un projet dépend du projet lui-même. Un projet peut durer 3 mois, 6 mois, 9 mois, une année, voire plus.
Mais la durée maximale, ce n'est pas une année, c'est au-delà?
C'est au-delà. Bon, seulement nous disons, lorsqu'on est au-delà des 18 mois, là le projet tend vers un programme.
Voilà. Au-delà des 18 mois?
Au-delà des 18 mois, on tend déjà vers un programme. Parce que quand nous gérons pour le projet à caractère communautaire, ce sont des projets où la gestion basée sur les résultats, et les résultats doivent se faire voir dans un temps record. Faut pas attendre longtemps pour qu'on palpe les résultats, le changement. Non, le changement doit venir assez rapidement.
On doit constater
l'impact dans un temps record.
Oui.
Et lorsque vous allez au-delà des 18 mois, donc la population doit attendre 18 mois pour palper la réalité par rapport aux résultats, ce n'est pas intéressant. Là, ça devient un programme.
Oui. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jean-Paul Kalala, consultant en élaboration et gestion des projets. Peut-être que les auditeurs sont intéressés et ils veulent poursuivre la discussion avec vous après cette émission. Comment vous joindre?
09, le numéro que nous donnons, c'est 09 72 15 33 14. Là, c'est le seul numéro qui passe 24 heures sur 24.
D'accord. 09 72 15 33 14.
Voilà,
c'est le numéro de monsieur Jean-Paul Kalala. Merci, on aura peut-être l'occasion de parler aussi du programme. C'est quoi un programme? Comment mettre en place un programme? Comment faire le suivi et l'évaluation des projets? Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, monsieur Joutier.